Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1750 à la suite du concours lancé par l'Académie de Dijon, le discours sur les sciences et les arts est le premier grand texte philosophique de Jean-Jacques Rousseau. Il répond négativement à une question alors, conforme aux espoirs des Lumières, le renouveau des savoirs et des arts a-t-il purifié les mœurs ? Rousseau soutient au contraire que le raffinement intellectuel et esthétique favorise la vanité, le luxe, la dépendance et la dissimulation morale. Ce bref essai polémique ne constitue pas un rejet simple de toute connaissance, il interroge les conditions sociales, politiques et morales de sa production et de son usage. Par une rhétorique vigoureuse, des comparaisons historiques et une défense de la vertu civique. Rousseau attaque la croyance selon laquelle tout progrès technique ou culturel serait nécessairement humain. Le texte inaugure les grandes tensions de sa pensée entre nature, société, liberté, inégalité et authenticité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une réponse paradoxale au culte des Lumières, le point de départ du discours est une question précise : les sciences et les arts ont-ils contribué à améliorer les mœurs ? Dans un siècle qui associe volontiers connaissance, politesse et perfectionnement humain, Rousseau adopte une réponse volontairement contraire. Son paradoxe ne consiste pas à nier que les savoirs produisent des découvertes ou que les arts procurent des plaisirs. Il refuse plutôt de déduire de ses succès une élévation morale. Une société peut devenir plus savante, plus élégante et plus habile, tout en devenant moins juste, moins courageuse et moins libre. Cette distinction entre capacité intellectuelle et vertu est le nerf de son argumentation. Rousseau déplace ainsi le critère du progrès, il faut juger une civilisation non selon son éclat, mais selon la qualité des rapports entre ses membres et leur aptitude à vivre vertueusement. Son intervention vise donc une confiance excessive dans le mouvement historique. Les améliorations visibles peuvent masquer une détérioration des caractères, des institutions ou des liens civiques. Cette critique donne au texte une place singulière au sein des Lumières. Rousseau parle depuis leur univers intellectuel, mais met en cause leur optimisme dominant. Il ouvre une interrogation durable sur les coûts moraux et politiques de la modernisation. Deuxièmement, le luxe transforme les besoins en dépendance. Rousseau établit un lien étroit entre le développement des arts et des sciences, le goût du luxe et la multiplication des besoins artificiels. Pour lui, le problème ne réside pas seulement dans la possession de biens raffinés. Le luxe crée une disposition durable à dépendre du regard des autres, de production superflue et de hiérarchie sociale qui permettent leur acquisition. Lorsque le confort et le prestige deviennent nécessaires, les individus perdent une part de leur autonomie pratique et morale. Ils travaillent moins à satisfaire des besoins simples qu'à soutenir des signes de rang ou de distinction. Rousseau voit dans ce processus une source de jalousie, de rivalité et de corruption. Les arts agréables peuvent alors détourner les citoyens des devoirs collectifs en rendant désirable une existence vouée à la commodité et à la consommation. Son raisonnement possède aussi une dimension politique des populations absorbées par les plaisirs et les besoins nouveaux sont moins capables de défendre leur liberté. Cette analyse ne doit pas être réduite à une nostalgie de la pauvreté. Elle examine la manière dont une économie du superflu peut produire des dépendances et rendre acceptables des inégalités. Le discours invite donc à distinguer le bien-être réel de la recherche indéfinie de commodité, ainsi que la liberté de la simple abondance. Troisièmement, le raffinement social produit des apparences de vertu. Une cible majeure du discours est la sociabilité mondaine, avec ses règles de politesse, de flatterie et de distinction. Rousseau estime que les sciences, les lettres et les arts peuvent former des manières agréables sans former des consciences droites. Les individus apprennent à paraître sensibles, cultivés ou vertueux, mais cette maîtrise des apparences facilite aussi le mensonge et la recherche de réputation. La critique porte donc sur un mécanisme social précis, plus une société valorise le jugement public et le raffinement des comportements. Plus chacun peut être tenté de régler ses actes sur les attentes du public plutôt que sur la voie de la conscience. La civilité ne garantit pas la vertu. Elle peut même lui servir de masque. Rousseau oppose à cette culture de la représentation une exigence de simplicité et de sincérité morale. Il valorise une vertu moins brillante mais plus solide, fondée sur le sens du devoir, le courage et la capacité de préférer le bien commun aux récompenses sociales. Cette opposition annonce ses réflexions ultérieures sur la dépendance envers opinion. Elle explique aussi pourquoi son texte demeure inconfortable, il ne condamne pas seulement les abus du pouvoir, mais les compromis ordinaires par lesquels les personnes cherchent reconnaissance et sécurité au prix de leur authenticité. Quatrièmement, les savoirs peuvent renforcer les hiérarchies et le pouvoir. Rousseau analyse les sciences et les arts comme des activités insérées dans une structure sociale inégale. Leur développement exige souvent des loisirs, des ressources et une division du travail dont tous ne bénéficient pas de manière égale. Les distinctions intellectuelles et culturelles peuvent dès lors consolider la séparation entre une minorité instruite et le reste de la population. Son objection ne se limite pas au fait que le savoir soit difficile. Elle concerne les formes de prestige et de domination qui l'accompagnent lorsque la reconnaissance sociale récompense davantage le talent spectaculaire que la vertu civique. Rousseau suggère également que les gouvernants peuvent apprécier des sujets occupés par les plaisirs, les modes et les querelles savantes, car cette attention détournée affaiblit la vigilance politique. Les productions raffinées ne constituent pas forcément une oppression, mais elles peuvent orner et rendre supportable un ordre qui réduit la liberté. Cette thèse donne au texte une dimension critique de la culture. Il faut demander qui finance les savoirs, qui en recueille les bénéfices et quels comportements ils encouragent. Une lecture actuelle peut y voir non une condamnation mécanique de la recherche, mais un appel à examiner ses conditions institutionnelles. La connaissance ne possède pas, à elle seule, une valeur civique garantie. Elle dépend des finalités collectives auxquelles elle est liée. En dernier lieu, la simplicité vertueuse comme critère de jugement, face à la corruption attribuée au raffinement, Rousseau met en avant une image de simplicité morale. Il associe la vertu à des besoins limités, à la franchise, à la vigueur civique et à une relative indépendance envers opinion. Ses références aux peuples anciens, notamment Sparte, ont une fonction argumentative, elles servent à opposer la force des mœurs à la splendeur d'une civilisation consacrée au luxe et aux arts. Cette opposition est souvent radicale et repose en partie sur des contrastes historiques simplifiés. Elle ne propose pas un programme réaliste de retour à une ignorance originelle. Rousseau reconnaît par ailleurs la valeur exceptionnelle de certains esprits et de certaines découvertes. Mais son intention première est de renverser la hiérarchie habituelle des valeurs. La science de la conscience et le sens du juste doivent primer sur érudition, le goût et la célébrité. Cette priorité explique la portée durable du discours. Il demande au lecteur de ne pas confondre complexité avec profondeur, ni innovation avec amélioration humaine. Sa solution reste moins développée que son diagnostic, ce qui constitue une limite réelle de l'ouvrage. Cependant, la force du texte vient de cette exigence de jugement. Toute avancée culturelle doit être confrontée à ses effets sur la liberté, la responsabilité et la capacité des citoyens à reconnaître le bien. En conclusion, le discours sur les sciences et les arts convient aux lecteurs de philosophie politique, aux étudiants des Lumières et à toute personne qui souhaite examiner de manière critique les récits ordinaires du progrès. Sa lecture est particulièrement utile pour comprendre que Rousseau ne demande pas simplement si une invention, une discipline ou une œuvre est efficace ou brillante. Il demande ce qu'elle fait au désir, au rapport de pouvoir, aux inégalités et aux mœurs. Cette méthode demeure intellectuellement féconde pour penser les cultures de consommation, le prestige social et les effets ambivalents de la technologie. Sans transformer Rousseau en commentateur direct du présent, le lecteur gagne surtout un outil de distinction entre accroissement des moyens et amélioration des fins humaines. L'ouvrage se distingue des essais philosophiques plus systématiques par sa forme brève, combative et paradoxale. Là où beaucoup de textes des Lumières célèbrent la diffusion du savoir comme un bien presque évident, Rousseau en examine les revers avec une intensité inhabituelle. Sa thèse est contestable dans ses généralisations historiques, son idéal de simplicité et sa sévérité envers les arts. Ses limites font néanmoins partie de son intérêt, elles obligent à préciser ce que nous entendons par vertu, liberté et progrès. Premier jalon majeur de la pensée de Rousseau. Ce texte prépare ses analyses ultérieures de la société et de l'inégalité, tout en restant une provocation autonome contre la confusion entre civilisation raffinée et justice morale. Si vous souhaitez soutenir Jean-Jacques Rousseau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.